Question, vivons-nous en permanence avec un mouchard dans la poche? Oui, potentiellement, répond un jeune homme, lanceur d'alerte. Oui, notre smartphone peut être une taupe, dit-il. Et il sait de quoi il parle. Il a lui-même écouté nos conversations, précisément celles que nous avons avec les commandes vocales de nos téléphones, de nos tablettes ou des assistants vocaux qui sont de plus en plus nombreux dans nos appartements ou nos maisons. Bonjour Thomas Boniek.
Bonjour.
C'est de vous dont il s'agit, c'est vous qui lancez l'alerte. Vous avez été data analyst, comme on dit, analyste de données pour un sous-traitant du groupe Apple. Avec vous, Olivier Tesquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des nouvelles technologies, vous travaillez pour Télérama, et dans le dernier numéro de Télérama, vous avez écrit un papier sur ce sujet. Avant de vous écouter, Thomas Le Boniek, quelques mots, Olivier Tesquet, de ce dont nous allons parler, des assistants vocaux, d'un assistant en particulier. Deux notes que vous avez peut-être reconnues, celle qui annonce le déclenchement de Siri, qu'est-ce que c'est ?
Alors Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple, c'est-à-dire que vous appuyez par exemple sur le bouton central de votre smartphone, de votre iPhone, la petite musique qu'on vient d'entendre retentit, vous parlez à votre téléphone en lui demandant quelque chose et cet assistant vocal répond. Alors cet assistant vocal, c'est une intelligence artificielle et comme toute intelligence artificielle, eh bien il faut l'entraîner, c'est-à-dire lui fournir des données et mettre des êtres humains derrière ces données pour les analyser afin de la rendre plus performante.
Ça marche aussi sur tous les produits Apple, le genre de questions qu'on lui pose, c'est par exemple quel temps fera-t-il demain ? Et il répond.
C'est ça, on peut lui dire à peu près n'importe quoi. On peut lui demander de composer un numéro de téléphone, on peut aussi lui confier ses peines de cœur.
Il y a des gens qui confient des peines de cœur. On va poser tout à l'heure la question à Thomas Le Boniek. Olivier Tesquet, quand on pose une question, comment ça fonctionne dans les grandes lignes ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la demande est traitée par l'intelligence artificielle du téléphone lui-même ou est-ce qu'elle est envoyée à un centre et elle revient depuis un data center ?
Non, c'est-à-dire que le téléphone, quand vous faites une mise à jour, par exemple, eh bien ça, la mise à jour que vous allez installer sur votre téléphone, ce sera peut-être la version améliorée de Siri. Et donc Siri vous répond comme s'il était finalement dans la même pièce. Mais ensuite, vous avez effectivement toute cette main-d'œuvre qui est chargée au quotidien de travailler à l'amélioration.
J'ai mal posé ma question.
Artificielle.
Quand on demande à Siri à quelle heure est le prochain train pour Orléans, est-ce que c'est l'ordinateur, votre téléphone qui répond ou est-ce que c'est envoyé à un data center et l'information revient du data center?
C'est le téléphone qui répond.
Thomas Le Boniek, Siri, c'est une intelligence artificielle qu'il faut le nourrir, entraîner, et c'est là que vous êtes intervenu. Vous étiez employé par un sous-traitant d'Apple en Irlande. On va planter le décor d'abord. Quelles étaient vos conditions de travail?
Eh bien, on était dans un open space et on était plusieurs centaines réparties dans toute la ville à faire le même travail qui consistait à corriger des centaines d'enregistrements au quotidien.
C'est important de le préciser, c'était en Irlande, manière légalement d'échapper à une certaine partie de l'impôt par Apple et par plein d'autres firmes. En open space, sur le contrôle permanent d'un superviseur, vous aviez la terreur d'être convoqué dans son bureau, ce que raconte le papier d'Olivier Tesquet.
Tout à fait, oui. Il y avait une exigence de méticulosité, en fait. On nous demandait d'avoir un taux de précision supérieur à 90% et on était contrôlé toutes les semaines. Et les gens qui n'arrivaient pas à ce taux-là étaient régulièrement convoqués et bien évidemment, ils se faisaient licencier.
On vous demandait également de garder le secret sur votre travail, comme si vous étiez des agents, entre guillemets, secrets. À qui ne fallait-il pas en parler ?
À personne. La clause de confidentialité était très claire, nous ne pouvions en parler ni entre nous, ni à notre famille, ni à nos amis.
C'est-à-dire, entre vous, vous n'aviez même pas le droit de parler de votre propre travail ?
Non. Non. Il fallait qu'on reste silencieux, en fait.
Alors, comment ça se passait ? Vous deviez écouter les conversations d'utilisateurs avec Siri, des conversations a priori insignifiantes. Exemple, à quelle heure le prochain train pour Orléans ? Combien de temps duraient ces conversations ?
Les enregistrements, c'était très variable. Ça pouvait aller d'une seconde à deux minutes. Mais on pourrait dire en moyenne de 15 à 45 secondes.
Et votre rôle consistait en quoi, une fois qu'une conversation avait été entendue ? Vous deviez voir si les mots entendus matchaient avec les mots écrits, c'est ça ?
C'est à peu près ça. Siri fait une retranscription déjà de la voix vers le texte. Et nous, notre boulot derrière consistait à améliorer la précision du texte. Mais il y avait d'autres fonctions qui venaient derrière aussi. Donc un travail d'annotation, notamment des mots-clés qui pouvaient intéresser Apple. Donc par exemple, la musique, les contacts, les noms d'artistes, les lieux. Et donc, dans les enregistrements, on entendait toutes sortes de choses. On entendait des numéros de téléphone, on entendait des noms propres, on entendait des choses extrêmement intimes.
Ouais. Comment se fait-il que le système fonctionne aussi bien ? Je vous donne un exemple. Moi, je dicte mes papiers avec mon ordinateur. J'écris pas à la main, je dicte. Il fait la différence ici en émission culture. Il fait la différence entre Jacques Weber et Francis Weber, le metteur en scène. Il met un V à Francis Weber, il met un W à Jacques Weber, comme c'est le cas. C'est grâce à des gens comme vous ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle toute seule qui compare avec des bases de données.
Alors, est-ce que vous vous souvenez des premières apparitions de Siri qui datent de 2010-2012 environ? À ce moment-là, l'assistant vocal était d'une qualité médiocre.
Ouais.
Et à force de travail, effectivement, de travail dissimulé, invisible, on améliore la précision de l'assistant vocal. Donc, il fallait effectivement...
Donc, c'est pas du tout. Moi, je me suis réjoui pendant très longtemps. Jusqu'à ce matin, je pensais que c'était la machine qui apprenait. Pas du tout. C'est un être humain qui dit non, Jacques Weber, ça s'écrit comme ça, et Francis Weber, ça s'écrit comme ça.
Il faut nourrir la machine, et pour que la machine se nourrit, il faut des rouages humains, dont j'ai fait partie.
Elle ne se nourrit pas toute seule en allant lire des papiers dans la presse, dans Télérama, par exemple.
Non.
Il y a de l'humain. Alors, on parlerait pas de ça s'il n'y avait pas une dimension d'espionnage. Est-ce que vous écoutiez toutes les conversations avec Siri? Est-ce que vous écoutiez celles qui sont déclenchées volontairement et d'autres qui pourraient l'être involontairement?
Une partie de notre travail consistait effectivement à faire de l'élagage, donc à identifier les enregistrements qui ne correspondaient pas aux exigences d'Apple. Et donc il fallait bien évidemment identifier les enregistrements qui étaient faits de manière involontaire.
Comment, Olivier Tesquet, comment on peut déclencher involontairement une conversation?
Oh bah, il suffit que vous appuyez par mégarde sur le bouton. Il y a plein d'enregistrements d'ailleurs qu'a écouté Thomas, où des gens s'adressent à leur téléphone et disent « Mais pourquoi tu t'es déclenché Siri ?» Donc, il y a tout un tas de déclenchements intempestifs au fond du sac, au fond de la poche, etc. Ça arrive de manière très, très usuelle à partir du moment où on manipule nos appareils à longueur de journée.
Ou même avec des mots qui ressemblent à « dit Siri ».
D'accord. Par exemple, vous allez visiter une Siri et hop, où vous parlez de la Siri.
Ouais.
Et non, mais ça
tout
vous fait sourire, mais c'est comme ça.
Non,
et ça déclenche Siri. Et ouais. Ensuite, vous ne savez pas que vous êtes enregistré à votre insu, évidemment. Combien de conversations vous pouviez analyser chaque jour?
Il fallait atteindre 1300 enregistrements au quotidien.
Si ça fait une minute, il y a 1300 minutes. Il ne suffit pas d'une journée pour faire les 1300 minutes.
Mais alors là, c'est parce que vous estimez que chaque enregistrement est une minute, mais les enregistrements avaient une longueur très variable.
Quel était le contenu, ça c'est la durée maintenant, le contenu des conversations que vous écoutiez? Qu'est-ce que les gens disaient?
Vous aviez toute la diversité des choses que vous pouvez imaginer chez les humains. Donc, bien évidemment, les choses un peu trash, hein, de la pornographie, de la sexualité, des choses très intimes aussi.
Attendez, je vous interromps. Il y a des gens qui confient leur sexualité à leur ordinateur, à Siri.
Oui, mais de toute manière, c'est un assistant vocal, donc vous pouvez lui donner des indications, des commandes. Donc vous pouvez lui dire de vous chercher du porno sur Internet, si vous voulez.
D'accord. Et après, le type ou la fille précise ce qu'il veut voir comme image, et vous l'entendiez?
Éventuellement, oui.
Quoi d'autre vous avez entendu?
Moi, ce que je trouve le plus choquant, c'est ce sont les déballages d'intimité qui sont complètement involontaires. Donc parmi les enregistrements... que j'ai entendu, il y avait des gens qui parlaient de leur sclérose en plaques, de leur cancer, de leur chimiothérapie, de choses très intimes dans leur relation familiale aussi.
Et de choses très très graves, au point que vous êtes allé voir en parler à votre chef. Combien de temps vous avez tenu dans ce job, Thomas Le Boniek? Réponse juste après une courte pause. En compagnie d'Olivier Tesquet, journaliste tech, mais pas seulement pour Télérama, vous avez consacré une enquête à Thomas Le Boniek, lanceur d'alerte. Ça va bien plus loin que ça, puisque vous travailliez, Thomas Le Boniek, pour une société sous-traitante d'Apple en Irlande. Vous écoutiez les conversations pour améliorer l'écoute vocale, notamment le dispositif Siri. Vous avez tenu combien de temps?
10 semaines, il me semble.
10 semaines seulement dans ce travail. Qu'est-ce qui vous a fait craquer?
Dès le départ, je trouvais que c'était quelque chose d'assez immoral, mais je n'avais pas trop le choix parce qu'il fallait que j'aie un travail. Le moment où j'ai décidé que je ne pouvais plus tenir et qu'il fallait que je parte et que je fasse partie des lanceurs d'alerte, c'est quand j'ai entendu l'enregistrement d'un pédophile. À ce moment-là, c'était plus possible d'ignorer... le dispositif d'espionnage en fait auquel je participais.
Attendez, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent mais c'est une bonne chose que d'arriver à repérer les pédophiles et les mettre hors d'état de nuire.
Je suis pas sûr que ça soit si évident que ça.
Expliquez.
Vous avez un système de surveillance de masse qui est géré par une corporation privée. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'elle se retrouve à échanger des informations avec toutes les polices nationales, avec ce que cela veut dire de variation dans le droit de chaque pays et ce qu'on estime être illégal dans certains pays. Donc par exemple, je ne sais pas, l'homosexualité.
Alors venons-en juste à la pédophilie. Vous entendez quelqu'un qui tient des propos et qui manifeste ses penchants pédophiles, que faites-vous?
Eh bien...
Vous avez prévenu votre hiérarchie ?
Oui, c'est ce que j'ai fait, oui.
Ouais.
Et ils n'ont pas vraiment réagi, à vrai dire. Je suis allé vérifier quelques jours plus tard et l'enregistrement était toujours dans la même base de données.
D'accord, mais quand même, votre hiérarchie vous a reçu une proposition d'aide psychologique par téléphone, ce que raconte Olivier Tesquet dans l'article.
Oui, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un peu léger, parce qu'il s'agissait d'appeler une sorte d'hotline d'aide psychologique qui fonctionnait au tri. À vrai dire, je crois que leur objectif principal était de déterminer si j'étais suicidaire ou non, et s'il fallait me proposer de l'aide tout de suite. Et puis ensuite, ils m'ont fait attendre plusieurs jours pour me proposer un rendez-vous avec un psychologue. Mais à ce moment-là, ma décision était déjà prise et j'avais décidé de résoudre la question moi-même.
Est-ce que vous savez si la société pour laquelle vous travailliez à l'époque avait saisi la justice suite à ces propos pédophiles ?
Non, je ne sais pas.
Et est-ce que d'autres employés ont vécu la même chose que vous ? Est-ce que d'autres employés, d'autres collègues ont entendu des propos pédophiles ?
Je ne sais pas, mais il y a quantité de témoignages de personnes qui ont fait le même travail que moi et qui racontent avoir entendu des situations.
Mais vous-même, vous avez interdiction, vous avez respecté cette interdiction de parler de vos expériences avec vos collègues ?
Eh bien, c'est jamais aussi simple que ça.
Je sens que j'ai posé une mauvaise question, donc une bonne question. Olivier Tesquet restait 2 mois dans une entreprise et l'a quitté à cause d'un burn-out, comme ce fut le cas pour Thomas Le Boniek. Est-ce que c'est pas fréquent ? Est-ce que ça l'est pour ce type de société sous-traitante ? Est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que le cas de Thomas Le Boniek est isolé ?
C'est pas isolé du tout, parce que pour l'article, j'ai sollicité une sociologue américaine qui s'appelle Sarah T. Roberts. Elle travaille sur les modérateurs des grandes plateformes depuis assez longtemps. Elle étudie ce milieu-là depuis des années et elle me disait qu'en fait, le modèle économique de ces entreprises, qui sont très souvent des sous-traitants avec des noms complètement anonymes, on dirait des caricatures de films de science-fiction, à l'entreprise pour laquelle travaillait Thomas s'appelle GlobeTech. Donc on imagine un truc c'est un Robocop, quoi.
Ouais.
Et elle me disait, le modèle économique de ces entreprises, c'est le burn-out. Donc il y a un turnover très très important où vous essorer des salariés qui développent en plus un certain nombre de pathologies hein, chez les modérateurs, mais chez les petites oreilles, comme je les appelle, tel que le faisait Thomas, on trouve des syndromes de stress post-traumatique, exactement comme les vétérans qui sont allés à la guerre. On trouve des phénomènes de désocialisation, d'alcoolisme, de toxicomanie, enfin tout un tas de problèmes personnels liés à un travail qui est à la fois invisible et éreintant psychologiquement.
Thomas Le Boniek, est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que vous racontiez date d'il y a presque 2 ans, c'était en avril-mai 2019, je le rappelle. Et là maintenant, si on déclenche Siri, est-ce qu'on peut être entendu, traité, analysé de la même façon qu'auparavant par Apple ?
Oui, il y a quelques changements cosmétiques.
Lesquels ?
Et marginaux. Apple a décidé de se passer de sous-traitant. Ils ont décidé qu'ils allaient effacer apparemment les numéros de téléphone et les noms en particulier des enregistrements.
Mmh.
En gros, les noircir au moment du traitement. Mais bon, et surtout, ils ont décidé qu'ils allaient en faire un opt-in, c'est-à-dire que les gens devaient accepter, enfin, devaient faire une manipulation sur leur téléphone pour dire oui, je veux bien participer à ces enregistrements-là.
On accepte, comme quand on appelle la SNCF et qu'ils disent cette conversation peut être enregistrée, et si vous souhaitez qu'elle ne soit pas enregistrée, appuyez sur 2 ou 3 ou 4, c'est ça. C'est ça ce que vous appelez un opt-in.
Non, c'est l'inverse, là vous êtes en train de décrire l'opt-out.
D'accord, opt-in, merci de l'avoir précisé, je viens d'apprendre 2 mots.
Un opt-in, c'est lorsque vous dites « oui, je veux bien être enregistré ».
D'accord.
Il n'empêche que déjà, ces enregistrements-là et ce programme existent depuis très très longtemps, donc ils ont traité des centaines de millions d'enregistrements, pas uniquement en France, mais en Europe et dans le monde entier, avec tout un tas de langues, donc ça concerne l'ensemble de la population mondiale. Ça ne suffit pas en fait à les exonérer.
Vous parlez d'Europe, la situation, dites-vous, n'a pas suffisamment changé. C'est ce qui vous a poussé à écrire aux autorités européennes l'an dernier, c'était en mai 2020. Vous l'avez fait en révélant votre nom, je vous cite, « Je vous écris pour vous informer de la violation massive de la vie privée de millions de citoyens dont j'ai été témoin lorsque je travaillais pour Apple. Quelle a été la réponse de l'Europe ?» Ils vous ont répondu quoi ?
Ben, ils m'ont pas répondu.
Bon.
J'ai eu quelques réponses des agences de protection des données, pas toutes, qui m'ont dit en gros, c'est pas notre boulot, allez voir chez les Irlandais.
Ouais.
Et les Irlandais n'ont jamais répondu.
Mais pourtant, en Europe, il y a le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. C'est pas suffisant, c'est pas contraignant. Au nom de ça, ils ne vous ont pas répondu.
Ben, il faut croire que le RGPD est optionnel pour Apple.
Expliquez alors.
Eh bien...
comme... C'est pas contraignant.
Apparemment, non. Il y a des sanctions que peuvent prendre les autorités administratives, mais puisque celles qui sont responsables au niveau national ne s'en occupent pas, eh bien, en gros, l'application du RGPD reste là.
Je veux dire, ce qui frappe, c'est qu'Apple axe sa communication sur la protection des données, notamment pour se démarquer de Facebook, parce que c'est un enjeu commercial. Et fin janvier, pendant une conférence internationale justement sur la protection des données, le PDG d'Apple disait « Nous devons avoir de l'IA éthique, IA intelligence artificielle éthique, comme nous avons de la collecte de données éthiques ». Qu'est-ce que vous vous dites ? Comment vous réagissez quand vous entendez ça ?
Je pense qu'il y a des arguments très forts pour dire que Apple mène des pratiques commerciales trompeuses.
Mmh. Olivier Tesquet, Siri n'est pas le seul assistant vocal du marché. On parle d'Apple parce que c'est l'exemple cité. Mais il y a également ceux des autres géants du numérique, Google, Amazon ou Baidu, c'est en Chine. Est-ce que vous savez s'ils pratiquent ce que Thomas Boniek dénonce, à savoir l'enregistrement des conversations ou de bribes de conversations, selon votre enquête ?
Alors toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises numériques font exactement la même chose parce qu'elles ont toutes effectivement leurs assistants vocaux maison.
La même chose mais de la même manière ?
Et elles le pratiquent de la même manière parce que de toute façon pour entraîner une intelligence artificielle et faire en sorte qu'elle soit plus efficace pour répondre à une requête, vous êtes obligé de l'entraîner et le seul moyen de l'entraîner c'est effectivement d'avoir des oreilles humaines qui sont capables de mettre un V ou un W à Jacques Weber par exemple.
Voilà, donc tous les gens qui ont un Samsung et qui ont un Huawei qui se disent « Ah c'est cool, j'ai pas du matériel Apple », c'est pareil pour vous. Thomas Le Boniek, professionnellement, que faites-vous désormais aujourd'hui ?
Je suis au chômage.
Et est-ce que ceci explique cela ?
Je ne sais pas, peut-être.
Vous espérez quoi ? Vous cherchez quel boulot, dans quel genre ?
Moi, je suis sociologue de formation.
D'accord. Et vous avez accepté ce boulot parce que vous n'avez rien trouvé d'autre ?
C'est ça, j'ai passé 8 mois sans travail après mon diplôme de master en septembre 2018.
Voilà. Et vous espérez quoi au bout de votre combat ?
C'est difficile à dire. Moi, j'aimerais déjà qu'on commence par parler des choses qui sont possibles et qui sont sur la table. Donc déjà, l'application du RGPD, ce serait une bonne manière de commencer. On devrait lancer des enquêtes, on devrait obliger Apple à dévoiler ce qu'il y a dans la boîte noire, en fait. Et à comprendre, et nous aussi comprendre, en fait, ce que ça représente comme trafic, comme flux de données, ce qu'on est, en fait... En train de leur donner ce qui est ce dont on est dépossédé.
Voilà, c'est un dossier sensible et on comprend votre prudence lors de vos réponses et chaque mot pesé au trébuchet. Apple, et pas seulement Apple, c'est ce qu'on apprend dans votre enquête, Olivier Tesquet, journaliste pour Télérama. Je vais citer votre dernier ouvrage, État d'urgence technologique. C'est un autre sujet, mais tout aussi intéressant. Comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Tesquet, journaliste pour Télérama. Merci, Thomas Le Boniek. Vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, alors on a créé une adresse mail pour discuter avec les gens que ça intéresse. Et aussi...
Allez-y, donnez-la.
Alors c'est témoignages.assistant.vocaux@protonmail.com, donc tout au pluriel, témoignage avec un S, assistant avec un S, témoignages.assistant.vocaux.
Et vocaux, il y a un X parce que c'est au pluriel. Merci d'avoir été avec nous tous les deux, Thomas Le Boniek, Olivier Tesquet, Culture Média continue.